Alors avant de lire l'évangile du jour, nous prions. Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole, une parole unique, vivante, nouvelle, que tu as aujourd'hui pour chacun de nous. Permets qu'à travers notre méditation de l'Écriture, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Viens toi-même nous donner la nourriture dont nous avons besoin pour avancer sur notre route, avec toi et avec nos frères et nos sœurs. Amen. L'évangile du jour se trouve dans Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 à 37. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. » Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite sexuelle, la rend adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais.
Lecteurs de la Bible, nous avons tous été confrontés à cette série de recommandations, d'injonctions, de commandements, ou alors de provocations, de la part de Jésus dans son sermon sur la montagne, adressé d'abord à des disciples qui viennent se rapprocher, mais aussi devant une foule qui les entoure, mais aussi une foule de lecteurs et d'auditeurs qu'on va appeler clandestins que nous sommes. Et le plus souvent, nous ne savons que penser de ce que dit Jésus. Dans son sermon, Jésus nous commande-t-il l'impossible ? Telle sera la question de cette prédication. Plaçons d'abord un bref contexte. Jésus s'adresse d'abord à ses disciples, d'abord parce que ce sont les plus proches, mais aussi à la grande foule, et parmi elles, probablement, des pharisiens, qui sont d'ailleurs nommés dans l'introduction de ce passage. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Il semble donc que dans ce discours, Jésus désigne les pharisiens à la critique de tout le monde. Ce qui va dans ce sens aussi, c'est ce qu'il vient de dire. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. On a souvent tendance à sortir cette phrase de son contexte pour en faire une méditation théologique de fond. C'est très bien, mais dans la chair de ce texte, ce qu'on y voit, c'est que d'emblée Jésus récuse l'accusation des pharisiens qui le décrivent comme quelqu'un de déviant par rapport à la loi de Moïse. Non, et bien au contraire, affirme-t-il. En fait, Jésus va donner une leçon à ces pharisiens dont il est très proche. Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire au travers d'une lecture superficielle ou habituelle du Nouveau Testament, ces pharisiens-là représentent l'espoir, mais c'est devenu, hélas, un espoir qui déçoit. Il est fort probable que le mouvement des pharisiens se soit constitué lorsque les Juifs, au IIe siècle avant Jésus-Christ, se sont rebellés contre l'Empire grec des Séleucides, ce qu'on appelle la révolte des Maccabées, une révolte qui a permis de donner provisoirement à Juda une indépendance politique. Ainsi, les pharisiens sont les descendants de cette rébellion nationaliste, vigoureusement attachée à une tradition qui se veut immunisée de toute influence païenne et qui est méfiante non seulement vis-à-vis des occupants actuels, les Romains, mais aussi de la hiérarchie du temple vue comme collaboratrice et inévitablement corrompue. Tant d'argent circule à l'intérieur du temple. Les pharisiens, c'est un peu l'armée morale du peuple, et c'est pour le peuple un espoir encore vivant. Et Jésus, au fond, semble surtout leur reprocher d'avoir abandonné cette énergie initiale et d'être devenus froids finalement, d'être devenus des surveillants, d'être devenus des juges, des casuistes. C'est pourquoi, aux oreilles de son petit peuple de disciples, mais aussi par ricochet, à tout un peuple là, qui cherche une direction pour se sortir de la peine où il se trouve, et ce peuple qui se fie aux pharisiens et qui se demande s'il doit se fier aussi à Jésus, eh bien Jésus relance l'espoir de l'accomplissement de la loi. Je suis venu accomplir la loi, c'est-à-dire l'apporter à incandescence. Et dès lors, tout ce que dit Jésus peut mieux s'entendre. Tu ne commettras pas de meurtre, dit la loi que les pharisiens spécialistes qu'ils en sont font appliquer, à juste titre. Mais moi, je vous dis, il faut que vous imaginiez, et si j'arrivais juste à vous faire entendre ça, je serais heureux. Je serais heureux que vous saisissiez de quelle force et de quelle nouveauté c'était alors de dire ces cinq petits mots, mais moi, je vous dis. Cinq petits mots d'une totale nouveauté pour l'époque, mais d'une nouveauté qui sera particulièrement insupportable pour les oreilles des pharisiens, pour lesquels Dieu parle, certes, mais il ne parle pas en s'opposant. Dieu, en effet, ne dit pas mais, car il parle d'origine. Et aussi, il ne parle plus directement, on va dire, mais il parle désormais au travers d'une longue tradition de commandements, interprétée par des bouches multiples, humaines, dont finalement celle des pharisiens pour qui donc personne ne pourra aller se mettre devant la foule et dire, mais moi je vous dis que la colère et l'insulte sont les prolégomènes du meurtre et qu'ils seront autant condamnables. Et il continue sa prédication. Mais moi je vous dis que votre offrande, votre offrande, c'est-à-dire ce qu'on doit sacrifier, les animaux qu'on doit sacrifier par prescription au temple, eh bien votre offrande n'est que du vent si vous êtes incapable de vous réconcilier avec votre frère. Sous-entendu, les pharisiens vous invitent à la bonne pratique, mais ne s'occupent même pas de savoir si cette pratique a un sens bénéfique. Le véritable sacrifice, la véritable offrande, ou tout au moins son préalable, c'est la réconciliation. D'où tu sais ça? Aurait dit une voix dans peut-être l'assemblée des disciples ou même dans la foule. Moi, je vous le dis. L'adultère, voilà encore un beau cas d'école pour les pharisiens qui vous jugent et vous surveillent et vous condamnent. Mais moi, je vous dis que convoiter une femme, car le mot grec peut certes être traduit par désirer, mais il renvoie plutôt dans ce contexte à l'interdiction de la convoitise dans les 9e et 10e commandements du Décalogue. Moi, je vous dis que convoiter une femme, vouloir la faire sienne et la posséder, est déjà un adultère. Un adultère, certes, privé et intime, et les pharisiens ne vont pas vous condamner pour cela, évidemment, mais Dieu qui sait. Et Dieu qui sait tout de toi. Alors enlève, arrache toute forme de convoitise de ton cœur et tu rendras le monde meilleur. Difficile de donner tort à Jésus si tant est que nous voudrions lui donner tort. Car nous vivons dans un monde où la convoitise est l'alpha et l'oméga de la doxa économique et mondiale. Et la source de toutes les guerres, des pollutions et de toutes les violences liées au ressentiment, une des pires émotions qui soit, le ressentiment, une émotion beaucoup plus, un sentiment beaucoup plus dangereux que la haine. La répudiation. Mais moi, je vous dis que finalement, votre femme, sauf cas extrême, vous ne la répudierez pas. Voilà, ça suffit de laisser vos femmes à la rue et à la mendicité. Pourtant, il est bien indiqué dans la Torah que, aurait dit quelqu'un, mais moi je vous dis, les femmes ne sont pas des objets qu'on convoite, qu'on possède et qu'on jette. Dans le contexte, c'est très libéral. Et dire que des gens ont conclu de ce type de recommandation que Jésus était contre le divorce, en fait, c'est un anachronisme. Et enfin, cette fameuse interdiction de parjure devant Dieu. Très bien, chers amis pharisiens, qui entendez mes paroles peut-être maintenant, mais qui de toute façon allaient en être mis au courant, et qui finalement, historiquement, allaient être aussi les destinataires de ce sermon, 50 ans plus tard, quand l'évangile sera publié dans un contexte largement plus conflictuel entre les pharisiens et les croyants au Christ. Mes frères, vous qui êtes issus du plus intense mouvement de libération des Juifs, qu'êtes-vous devenus pour en rester là? Contrairement aux sadducéens du Temple, vous n'êtes pas attachés à la lettre de la loi, je crois. Vous êtes des interprètes de la loi dite orale que Moïse, de la part de Dieu, a transmis oralement. C'est vous, donc, qui créez ce qu'on appelle, pas encore, de la jurisprudence. Alors franchement, pouvez-vous imaginer qu'il y aurait donc une différence fondamentale entre jurer par Dieu et jurer au nom du reste de sa création, de la terre, de la ville de Jérusalem ou même sur votre propre tête? Car qui êtes-vous, sous-entend Jésus, pour jurer sur votre tête alors que, comme chacun le sait, au fond, vous n'avez pas de capacité interne à changer quoi que ce soit de vous? Jésus parle à ses disciples, il parle par ricochet aux pharisiens de son époque, mais aussi aux pharisiens de l'époque de l'Évangile, mais aussi, en fait, il parle à chacun de nous. Qui es-tu pour ne t'appuyer que sur tes épaules inconsistantes? Tu finiras par parjurer, parce que tu es faible face à l'univers et c'est ta condition humaine, alors ne jure pas, voilà, point. Je suis venu accomplir la loi, mais je ne suis pas venu pour tergiverser sans fin. Colère, insulte, convoitise, répudiation et parjure, moi je vous dis non. Et je vous dis aussi, et ce n'est pas la traduction que nous avons l'habitude d'entendre, mais elle est plus conforme au texte original, je vous dis aussi que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Voilà ce que fait Jésus dans son sermon. Il invite ses disciples à comprendre l'essentiel et au passage, il donne une leçon d'interprétation de la Torah et c'est ce qu'aurait dû faire un pharisien d'abord, interpréter la Torah correctement, on va dire. Et un message à tous ceux qui tentent désespérément de transformer ces paroles de Jésus-là en texte de loi et qui donc se fourvoient. Alors, il faut leur dire que, eh bien, c'est un sermon, c'est une prédication. Ce ne sont pas de lourdes tables de la loi, gravées dans je ne sais quel minéral. Une prédication, c'est quoi? Eh bien, ce sont des paroles qui s'envolent. Juste ce qu'il faut, mais Jésus le dit aussi par ailleurs, c'est avoir des oreilles pour éventuellement entendre. Amen.